Vous écoutez Dans les coulisses de l'industrie, le podcast du Salon Industrie Grand Ouest.
Bienvenue dans les coulisses de l'industrie, le podcast qui traite tous les 15 jours des sujets qui sont au cœur de l'actualité du secteur avec les experts et les acteurs de l'industrie. Aujourd'hui, rendez-vous avec Grégory Lecoent, vice-président du groupe Virquin. Ce groupe, dont le siège social est à Carquefou, près de Nantes, est spécialisé dans les équipements pour le sanitaire et la plomberie, siphons, joints, mécanismes de chasse d'eau. Virquin possède 6 usines dans le monde, en France, en Chine, en Roumanie, en Russie et en Afrique du Sud, et emploie plus de 1200 salariés. Une entreprise qui a récemment rapatrié de Chine dans son usine de Carquefou la production d'une bombe de douche innovante. Bonjour Grégory Lecoent.
Bonjour Christophe.
Comment va votre groupe ? Comment se porte Virquin aujourd'hui ?
Alors c'est une bonne question parce qu'on est, tous un petit peu perturbés par les actualités disruptives de ces derniers mois et années. On a souffert comme tout le monde. Comme tout le monde, on s'est creusé les méninges pour trouver des solutions agiles. Pour réagir à cette actualité qui était inattendue, probablement difficilement envisageable. Et ça a été un excellent exercice d'agilité et intellectuelle et industrielle. On a tous remarqué qu'en fait, ce qu'on pensait impossible est tout à fait possible. On a tous constaté que changer radicalement du jour au lendemain, c'est pas impossible si on s'en convainc soi-même. Et quand on n'a pas le choix, on s'en convainc facilement. Donc, c'est un exercice intellectuel et managérial et industriel que j'ai trouvé intéressant. Ouais.
Qu'est-ce que cette crise sanitaire et la crise que l'on vit aujourd'hui avec cette crise, avec cette guerre en Ukraine a changé ?
Le fait d'être confronté à des crises qui nous bouleversent les flux logistiques, les capacités d'approvisionnement, les capacités de gestion des hommes. Quand on est tous en confinement, c'est plus difficile de fabriquer, évidemment. Donc, ces chamboulements, en fait, nous obligent à prendre du recul par rapport à une réalité qu'on croyait figée et nous font voir les choses différemment. Donc, en réalité, on progresse par la crise. Maintenant, je pense que tout le monde ne penserait pas de la même façon, surtout ceux qui sont sous les bombes. Mais industriellement parlant, c'est une vraie remise en question qui, je pense, est intéressante pour la résistance des entreprises au choc.
Virquin, aujourd'hui, a 6 sites de production dans le monde. Ça a aussi peut-être modifié votre façon de voir la production ?
Oui, bien sûr. Le fait d'être international, c'est clairement une force. Ça permet de voir les tendances arriver, d'avoir des visions qui ne soient pas que culturelles françaises. Donc, une façon d'envisager les sujets qui est différent d'un pays à l'autre. Et donc, c'est plus riche. Donc évidemment, c'est une force. Maintenant, les flux logistiques, on s'est rendu compte que c'était quand même compliqué. Et plus le flux logistique est loin, plus les risques et les contraintes sont importantes. Et dans notre nouveau plan RSE, programme de réduction de notre empreinte carbone, évidemment que tout ce qui voyage devient un boulet. Donc il faut qu'on envisage de la production localisée. C'est évidemment ce qu'on est en train de faire, à la vitesse industrielle, parce que les investissements sont évidemment importants, mais avec une volonté de le faire, une vraie volonté, et surtout, je pense, une conviction, c'est plus important que la volonté.
Ouais. Ouais, vous avez relocalisé, hein, donc, notamment la production d'un système d'évacuation compacte. Vous avez investi plus d'un million d'euros dans une unité de production ici à Carquefou. C'est l'un des enjeux pour vous, dans les mois, les années à venir, de tenter de relocaliser certaines productions ?
Oui, évidemment. Comme je viens de le dire, l'empreinte carbone passe par là. On ne peut pas envisager sereinement d'optimiser l'empreinte carbone localement et continuer à transporter les produits à travers toute la planète. Ce n'est pas durable, on le sait. Maintenant, j'aimerais repréciser la partie relocalisation parce que ce terme, dans les esprits, dans les têtes françaises, ça veut dire j'arrête de produire dans les pays concurrents et je ramène l'outil de production en France. Ce n'est pas si simple que ça et je préciserai le relocaliser par du localiser. Et on localise là où on vend. C'est le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone. Donc le projet dont vous parlez de la Slim Plus, on l'a relocalisé en France parce que c'est le centre de gravité commerciale des ventes de ce produit. Donc on le vend surtout en Europe de l'Ouest. Et donc c'était pertinent de localiser ce produit en Europe de l'Ouest et non pas en Chine comme il était avant. Par contre, demain, si j'ai un centre de gravité en Europe de l'Est, en Afrique ou en Asie, c'est clair que la localisation ne se fera pas vers la France. Donc, c'est important de comprendre ce premier sujet. Et le deuxième, comment dirais-je, message que je voudrais passer, c'est que pour relocaliser une production en France, la décision est souvent économique. Et en fait, il faut qu'elle soit et économique et environnementale, évidemment. Et là, je voulais passer un message parce qu'on entend beaucoup, entre autres dans ces périodes électorales, de promesses sur des SMIC qui s'envolent. Et je comprends très bien le besoin des gens d'avoir cette réassurance que demain, on aura un pouvoir d'achat supérieur à hier. Maintenant, il faut que tous soient conscients qu'une relocalisation, donc ramener de la production vers la France, c'est un calcul économique. qu'est-ce que je produis en France ? Qu'est-ce que je peux produire en France ? Combien ça me coûte ? Qu'est-ce que je peux produire en Roumanie ? Qu'est-ce que je produis en Roumanie ? Combien ça me coûte ? Même chose en Russie, même chose en Chine, même chose en Afrique. Et quand on prend notre décision, on la prend au regard de ce tableau, quelque part. C'est un tableau Excel, c'est de la finance. Et plus on montera les coûts de production en France, plus on aura du mal à relocaliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les augmenter, mais il ne faut pas faire des promesses à tout va qui risquent de jouer contre, au final, contre les intérêts des salariés. Parce que s'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'emploi.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, la crise sanitaire a accéléré la transformation de l'industrie française. On a parlé de relocalisation, on parle beaucoup de gains de productivité d'industrie 4.0. Comment combiner performance économique avec responsabilité sociale, territoriale et environnementale ? C'est à cette question-là qu'il faut répondre.
C'est une des questions. Vous savez, l'économie, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose d'assez complexe et il n'y a pas un levier. L'industrie, la finance, l'économie avec un grand E, on va dire, c'est plein de leviers. C'est l'humain, c'est l'équipement, c'est les contraintes, c'est le normatif, c'est le législatif, c'est parfois le pénal. C'est plein de contraintes qu'il faut prendre en compte. Et vous ne pouvez pas dire, je vais faire que du sociétal ou que de l'environnemental ou que de la productivité et oublier tout le reste. Ça ne marche pas comme ça. Donc, une entreprise avec un grand E, hein, au sens de l'entrepreneuriat, c'est plein de leviers et il vaut mieux éviter, je pense, sur le moyen long terme, il vaut mieux éviter d'en oublier un ou deux parce que le déséquilibre se créera et je pense que ce n'est pas pérenne. Donc, il faut avoir plein de mains pour pousser plein de leviers en même temps. La concurrence, les marchés, les attentes, les salariés nous poussent à être bons sur chacun de ces leviers. Donc ça c'est très important. Comment ça se passe ? Ensuite, je pense qu'il n'y a pas deux situations identiques. Deux entreprises, même concurrentes, sur les mêmes gammes, dans le même environnement normatif et législatif, auront des contraintes absolument différentes parce qu'ils ont un vécu différent, des habitudes, une façon de penser différente. Et tant mieux, c'est aussi ce qui crée la diversité et donc l'innovation.
Pour terminer, Grégory Lecoin, on voulait avoir votre avis sur votre regard sur l'industrie française aujourd'hui. On entend beaucoup parler de moments charnières. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
La grande question de l'industrie en France, je constate, comme tout le monde, qu'elle a beaucoup reculé ces dernières décennies. On était un pays industriel, on l'est moins. Je constate aussi, dans ces dernières années, dans le regard des gens avec qui j'échange, « Ah bon, vous avez une usine en France ?» Comme si ce n'était pas possible. Avec un étonnement assez marqué. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 6 usines, de piloter 6 usines. Et je me rends compte que la France, avec tout ce qu'on en dit, avec tous les plaintes et les contraintes dont on nous parle au quotidien, ben ça reste un très beau pays. Un pays avec énormément de compétences, un pays avec énormément d'écoles et de culture générale, mais aussi de culture technique. C'est pas difficile de le recruter en France, c'est pas difficile de se lancer dans des projets ambitieux en France parce qu'on a l'intelligence, on a la formation, on a les infrastructures, on a un État qui nous suit. Et si on prend du recul, qu'on prend les bonnes décisions, il n'y a aucune raison que la France soit à la traîne sur quelques sujets que ce soit.
Merci beaucoup, Grégory Lecoin.
Merci, Christophe.
Vous écoutez des podcasts ?
Ça m'arrive.
Vous connaissez la formule à la fin. Évidemment, si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode de ce podcast, vous pouvez vous abonner à ce programme sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, merci de votre écoute.
C'était Dans les coulisses de l'industrie, le podcast du Salon Industrie Grand Ouest, du 4 au 6 octobre 2022, au Parc des Expositions de Nantes.